Oui, alors je disais, il y a quelques semaines déjà de cela, le Seigneur m'avait mis à cœur un texte dans mon étude personnelle. Et plus le temps passait, et plus je sentais que le Seigneur me demandait de le partager. Mais plus je le regardais, je ne vais pas dire moins je comprenais, mais je n'arrivais pas à trouver quel était ce qui était important pour nous, pour l'ensemble de l'Église. Bien sûr, c'est un texte de la parole de Dieu, donc c'est toujours important. Mais vous savez, il faut parfois avoir pas une conviction, mais il faut ressentir, il faut que le Seigneur nous monte. Et c'est l'œuvre, en tout cas, du Seigneur pour tout un chacun. Et aussi en particulier pour ceux qui doivent apporter la parole de Dieu. Alors on va regarder le texte et on va le Seigneur va nous éclairer au fur et à mesure de la compréhension de ce texte. Ce texte se trouve dans Éphésiens au chapitre 5 et à partir du verset 22. Alors, je ne sais pas si tu le fais. Fabien, tu arrives à trouver? Super. Ah, il cherche. Éphésiens, chapitre 5, et à partir du verset 22. Et alors, on va le lire là, dans la version seconde, 1910. Voilà. « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Alors ce matin, j'ai oublié quelque chose, c'est que les enfants n'avaient pas école du dimanche. Alors, j'aurais peut-être dû prendre le texte qui suivait, chapitre 6, « Enfants, obéissez à vos parents ». C'est pas le cas. Donc, enfants, vous l'avez échappé belle. Voilà. Alors quand même, pour vous aider un petit peu les enfants, vous avez vu qu'il était dit « Femmes, soyez soumises, mari, aimez vos femmes ». On peut dire « Maman, soyez soumise, papa, aimez votre épouse ». Voilà, c'est plus clair, je pense, dans l'esprit de nos enfants. Quand on prend un texte comme celui-ci, bien sûr, on le connaît, on l'a peut-être entendu parler. Et des fois, même c'est déjà arrivé, peut-être pour vous aussi, au cours de, pas d'entretien, mais de quand on est ensemble, dire « Ah oui, dans la Bible c'est marqué « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et alors les sœurs qui entendent ce verset disent tout de suite « Oui, mais attendez, il est aussi dit « Marie, aimez vos femmes ». Et il y a en nous un je ne veux pas dire une blague, mais un sourire qui apparaît. Et moi, je me méfie toujours quand on parle de blague sur la parole de Dieu, ou quand on parle même de sourire en écoutant ou en lisant un texte de l'Écriture. Il y en a d'autres que j'ai entendus, on ne va pas le partager là, et que sans doute vous-même aussi vous avez entendu. Nous n'avons pas le droit de blaguer sur la parole. Nous n'avons pas le droit, même, de sourire, avoir un petit sourire narquois concernant la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a laissé l'écriture de la Genèse à l'Apocalypse pour toutes les générations d'hommes et de femmes sur la terre, afin que l'écriture soit pour nous un appui, qu'elle soit pour nous une nourriture dont on a besoin. Et quand l'apôtre Paul parle ici concernant les femmes et concernant les maris, il ne se moque pas, il ne sourit pas, il est sérieux. Et vous savez, quand on prend un passage dans l'Écriture, quel que soit le passage d'ailleurs, il ne faut pas sortir un petit verset pour faire toute une méditation ou tout un message. Encore moins un demi-verset. Il faut toujours, ça c'est un principe hein, biblique, il faut toujours lire le contexte, lire le paragraphe en entier. Voire parfois même un peu plus que le paragraphe. Et concernant ce sujet, en l'occurrence, il n'y a pas que dans Éphésiens dont il est question de ça. Vous allez dans Colossiens au chapitre 3, verset 18, il est aussi dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, aimez vos femmes. » Quand vous lisez dans, par exemple, je vais prendre celui-ci, dans Pierre, au premier épître de Pierre, au chapitre 3 et au Pierre, chapitre 3 et verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, des ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et qui l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Alors, quand on prend ces passages-là, quand ce texte-là, en tout cas ce sujet-là, je dirais, il faut tenir compte des différents passages dans l'Écriture. Vous savez, Sarah appelait Abraham son Seigneur, et Sarah, ça veut dire reine ou princesse. Donc il y avait un seigneur et une princesse. Un peu comme dans les contes de fées ou les histoires qu'on rencontre, qu'on explique aux enfants, ou les dessins animés. On montre toujours le roi, la reine, le prince, la princesse. Mais dans l'esprit du Seigneur, je dirais, c'est la même chose. Il y a un rapport important et étroit. Alors, à qui s'adresse la lettre? Moi, c'est la première chose que je me suis posée comme question quand Paul écrit aux Éphésiens. Ben, tout d'abord, Paul ne connaissait pas les Éphésiens. Il n'est jamais allé. Il ne les avait pas rencontrés au chapitre 1er, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité, il ne les connaissait pas personnellement. Et quand Paul a écrit cette lettre, on pense d'ailleurs que c'est probablement la dernière lettre qu'il a écrite, il a peut-être écrit d'autres, mais qui ne sont pas dans l'Écriture, dans celles qui sont dans notre Bible, c'est la dernière lettre. Il était emprisonné à Rome, un peu à la fin de sa vie, en quelque sorte. Et Quand Paul écrit aux Éphésiens, je crois que c'est la semaine dernière, Nicolas nous a lu le texte qui se trouve justement dans le chapitre 5, verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, de cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Au verset 18, donc quelques versets, deux, trois versets avant de lire ce texte, il nous est dit que « ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche ». Ensuite, il parle, bien sûr, du texte qu'on a lu. Il va parler au chapitre 6 des enfants, et il va parler aussi pour les pères, que les pères n'irritent pas les enfants. Quand Paul a écrit cet ensemble de textes, sans doute qu'il l'a écrit parce qu'il avait entendu des échos. Il avait entendu que l'église d'Éphèse, il y avait ces difficultés-là. Comme quand il a écrit aux Corinthiens, il savait qu'il y avait des difficultés. Et quand Paul écrit ici aux femmes et aux maris, il est bien de voir quelle est la racine de ces mots-là. Par exemple, pour le mot « femme » qui est employé ici, c'est le mot en grec « gunai ». Et dans l'écriture, ce texte-là, « gunai », veut dire aussi bien « femme de tout âge »,« vierge »,« mariée », »,« veuve », »,« épouse » et même « fiancée ». Vous savez, quand Jésus est allé à... Jésus, il n'était pas né encore. Quand Marie est allée avec Joseph à Bethléem, il nous est dit que Joseph était avec sa fiancée. Mais c'est le même mot. C'est le mot gunai. C'est le mot gunai. Et pour le mari, c'est un autre mot. C'est le mot aner, qui veut dire époux. Ce n'est pas l'homme en général. Vous savez, des fois on dit l'homme, c'est en grec c'est anthropos. Là, c'est pas du tout ça. Il est bien question des épouses et des époux. Et je me suis dit, en fin de compte, Paul écrit aux épouses et aux époux. Il écrit à une église, et dans l'église, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des couples qui existent, il y a des épouses et il y a des époux. Et ce texte s'adresse particulièrement à eux. On va y revenir peut-être après. Alors, quelle est la réalité spirituelle qui se trouve là? Vous vous souvenez, je crois que c'est dans Luc au chapitre 12, Jésus a dit, regardez les oiseaux. Votre Père leur donne à manger. Regardez les lys des champs, les fleurs. Votre Père les habille. À combien plus forte raison votre Père vous donnera de quoi vous nourrir, de quoi vous vêtir. Et le fond du texte, c'était « Ne vous inquiétez pas ». Le Seigneur s'est servi de la nature créatrice pour donner une vérité spirituelle. « Ne vous inquiétez pas ». Mais là, dans le texte qu'on vient de lire, c'est l'inverse. Il y a une réalité spirituelle qui est Christ et l'Église. Et cette réalité spirituelle doit se manifester dans les rapports entre l'époux et l'épouse. Vous sentez la différence là qui se dit ici. C'est cette vérité spirituelle qui est le point, enfin, je veux dire, fondamental, qui existe, qui est. Et le rapport entre l'homme et sa femme, entre l'époux et l'épouse, doit se réaliser. Pourquoi ? Parce que la vérité spirituelle existe. Alors, j'aimerais... si je ne l'ai pas perdu. C'est là. Je voudrais vous relire le texte qu'on a lu, mais dans une autre version. C'est la version du semeur. Parce que dans cette version, il y a quelque chose, pour moi, quelque chose d'important, en tout cas, qui nous donne une autre connotation et qui nous permet peut-être de mieux saisir cela. Pardon. On a l'impression, quand on lit là, dans la version, en tout cas second, qu'il y a les autres textes qui sont avant, et, par exemple verset 21, qui disent « vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ ». Et puis moi, j'ai un sous-titre, c'est marqué « les devoirs domestiques ». Et là, on reprend au verset 22, « femmes, soyez soumises ». Comme si, en fin de compte, les deux versets sont, ou les deux textes sont séparés. Alors que dans la version Semeur, c'est pas du tout ça. Et on comprend mieux à partir de ce moment-là. Alors je vais vous la lire. Verset 18, je remonte un peu avant. « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. » Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que vous révérez le Christ. Révérer, ça veut dire traiter avec un grand respect ou honorer particulièrement. Parce que vous traitez avec un grand respect le Christ, vous soumettant les uns les autres, verset 21, verset 22, vous, femmes, en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Il y a une liaison dans la soumission. On se soumet les uns les autres, parce qu'on aime le Seigneur et parce qu'on est membre du corps de Christ. Vous, femmes en particulier, ou vous, épouses en particulier. Le mari, en effet, est le chef de la femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Ça, c'est la traduction Semeur. Alors que on pourrait se poser des questions quand on est dans cette traduction de second, il parle de baptême d'eau, là, comme par le bain nuptial. Christ a purifié son Église par sa parole. Par sa parole. Et nous savons que, en lisant la Bible, que l'Apocalypse nous dit un jour il y aura les noces de l'époux et de l'épouse. Et le Seigneur, en attendant, nous façonne, il nous purifie. On l'a lu par un moment, dans l'autre texte, il rend l'Église digne, l'Église, il veut une Église parfaite. D'ailleurs, c'est marqué là. Il a ainsi voulu présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu, et irréprochable. Voilà ce que le Seigneur veut de son Église. Voilà ce que le Seigneur veut de chaque membre de l'Église. Voilà ce que le Seigneur veut de chacun d'entre nous. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Et ensuite, le reste des versets, les restes des versets sont semblables à ce que l'on a déjà lu. Ah, il y a une différence avec le monde, n'est-ce pas? Le monde, aujourd'hui, il peut être libre. Il peut faire ce que bon lui semble. Je me marie, je ne me marie pas, je divorce, je pars. Combien de fois j'en ai pu entendre, même parmi les personnes qui vont se marier pour la première fois, oui, pour la première fois, bon, si ça ne va pas, de toute façon, on se séparera. Alors, on dit, la première année, c'est la plus dure. Après, on dit, les trois premières années sont dures. Après, on dit, les sept premières années, c'est difficile. Quand on a passé 10 ans, en général, ça va à peu près. Là, on entend ça, parfois. On a besoin de liberté. On a besoin de liberté sexuelle, bien sûr. On a besoin de libération féminine. Alors, je fais une petite parenthèse quand même. Je ne dis pas que je suis contre. On dit souvent, à travail égal, salaire égal. Alors, je suis partisan, il n'y a pas de problème. On voit souvent, vous avez des femmes qui conduisent des autobus, par exemple. Je prends un exemple comme ça. Si cette personne travaille toute la journée en faisant sa ligne d'autobus, ou alors que ce soit une femme ou un homme, à travail égal, salaire égal, ça me paraît de plus évident. Donc il y a des points comme ça qui sont soulevés, on entend à la radio, à la télévision, tout ça, qui sont tout à fait légitimes. Mais des fois ça va beaucoup plus loin, la libération féminine. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, l'épouse, la femme, veut être égale à l'homme, égale dans ses décisions, égale dans sa vie, égale dans sa le fait de choisir, de faire ce qu'elle a envie de faire, quand elle a envie de le faire. Je ne veux pas trop m'étendre dessus, mais vous en entendez autant que moi. On parle en ce moment des 50 ans de mai 68. Alors moi j'avais 15 ans, donc j'ai quand même quelques petits souvenirs à ce moment-là. Mais mai 68 c'était « je veux être libre ». C'est la liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Un des thèmes c'était « il est interdit d'interdire ». Ça c'était le leitmotiv à cette époque-là, je me souviens. Il est interdit d'interdire. Je veux faire ce que j'ai envie de faire. Les lois, je n'en ai pas besoin. Au moins, j'ai besoin simplement de celles qui m'arrangent, mais pas des autres. On n'entendait ni Dieu, ni maître. Là, c'était aussi un thème qui venait assez souvent. Le monde, c'est cela. Et aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. C'est toujours la même vision, la même pensée. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le verset qu'on a lu, là, le dernier, verset 33, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voilà le plan de Dieu. Ah, déjà la fois dernière, j'y avais pensé. Là, j'ai oublié. Avant, ça n'arrivait pas, et maintenant, le fait de parler un peu, c'est que je ne dois peut-être pas assez parler à la maison. Ça doit être pour ça. J'ai plus d'entraînement. Donc, merci, Octave. Alors, la vérité spirituelle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le point central de toute l'humanité, où le point central de toute l'Écriture, c'est Christ. C'est la croix. Parce que Christ sans la croix, il manque quelque chose. La croix, c'est le pardon des péchés. La croix, c'est de passer de la mort à la vie pour ceux qui l'acceptent. Et l'humanité, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, le point central, c'est Christ et c'est la croix. Et même s'il ne l'accepte pas, même s'il le refuse, même s'il préfère trouver eux-mêmes la délivrance, il n'empêche que la croix et Christ, c'est le point central. Et c'est ce que l'Écriture nous dit en permanence. On a eu la réunion d'IKEA vendredi. Ouais, vendredi. Première réunion d'information, en fin de compte, pour le petit groupe de Marolles. Et j'avais proposé, mais je crois que tout le monde a dit oui tout de suite. Alors maintenant, on va dire, c'est tout le groupe qui l'a proposé. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va se voir, on va apprendre un verset par cœur. Alors, c'est pas dans IKEA, je regarde, comme Rodrigue, c'était pas dans l'IDEA, mais on y a pensé à tout. On dit, on va apprendre un verset par cœur. Ça va pas nous faire de mal, ça va pas nous faire que du bien. Alors, il y a certains versets qu'on connaît, mais vous savez, il faut apprendre le verset et il faut apprendre la référence. Comme ça, si un jour on a besoin de rendre témoignage ou de parler à quelqu'un, on donne les deux. Et le premier verset, c'est Jean 3,16. Bien sûr, on le connaît. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est le point central, non seulement de l'Évangile, de l'Écriture entière, et aussi pour la nation, pour l'humanité tout entière. Parce que au verset 23, ici, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Comme Christ est le chef de l'Église. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, il est dit « Christ bâtit l'Église ». Lorsqu'il s'est adressé à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Dans Actes, chapitre 2, verset 47, il nous est dit que « Christ ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés ». Dans Éphésiens, toujours, chapitre 1er, verset 23, il nous est dit, le Père, il l'a donné, en parlant de Jésus, pour chef suprême de l'Église. Christ est le chef, il bâtit son Église, il ajoute chaque jour ceux qui sont sauvés. Et quand quelqu'un se tourne vers le Seigneur, quand quelqu'un demande pardon, quand quelqu'un accepte le don de Jésus pour sa propre vie, cette personne passe de la mort à la vie, l'Écriture nous dit. Non seulement de la mort à la vie, mais le Seigneur ajoute à l'Église, à son Église, la personne qui est sauvée. Et c'est pour ça que nous sommes tous, nous est dit, des membres de l'Église, des membres du corps de Christ, excusez-moi, différents. L'œil ne peut pas dire, j'ai pas besoin de la main, ou j'ai pas besoin des doigts. Nous avons besoin les uns des autres parce que nous sommes des membres différents. Alors on voit que pour en revenir dans Éphésiens chapitre 5, verset 30, qu'il y a un rapport très étroit entre Christ et l'Église. Il n'y a pas Christ d'un côté, l'Église de l'autre. Mais il y a un rapport très étroit. Et au verset 31, Paul va revenir sur cette réalité. Puisqu'il dira, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Je pense que dans l'esprit de Paul, vous savez, Paul était d'origine israélite, il connaissait la loi, il connaissait l'Ancien Testament, il n'a pas connu personnellement Christ pendant le ministère de Christ, mais il connaissait l'Ancien Testament. Et quand il a écrit ce verset, il a dû penser de suite à Genèse, chapitre 2, verset 24. Ce sont les mêmes paroles. Ce sont les mêmes paroles. Vous vous souvenez que, dans Genèse, au chapitre 2, par exemple, au verset, après la création, on va dire, au verset 18, l'Éternel, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et puis, il a appelé l'homme, Adam, il a fait venir tous les animaux, tous les oiseaux du ciel, il les a fait venir devant Adam. Et l'homme lui a donné un nom à chaque animal. Ce sont les versets qui suivent, 19, 20, ainsi de suite. Et puis, le Seigneur a dit, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable. Alors, il a envoyé un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il a pris une de ses côtes, l'Écriture nous dit, et il a formé une femme. Et quand l'homme s'est réveillé, on va dire, quand Adam s'est réveillé, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Le nom de la femme ici, en hébreu, c'est Isha. Le nom de l'homme, c'est Ish. Vous savez, comme beaucoup de prénoms qu'on a des fois même ici en France, il suffit de mettre un A et puis c'est féminin, tout de suite, n'est-ce pas? Nous, on avait nos deux premiers enfants, le premier s'appelait Emmanuel. Et la fille est arrivée, on l'a appelée Manuela. Pas tout à fait pareil. Mais l'avantage, c'est que quand j'avais besoin de les appeler pour qu'ils viennent manger ou qu'ils rentrent à la maison, il suffisait de dire « Emmanuela ». Et les deux étaient notés. Enfin, ça, c'est une anecdote. Ça a rapport. C'est pas biblique, là, pour l'instant. Mais cela veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu créateur a créé l'homme et il a créé la femme. Il a voulu que l'homme ait une aide semblable à côté de lui. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas parce que c'est comme ça, c'est parce que Dieu l'a voulu dans la création. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Des fois, je me suis dit, mais pourquoi? On se pose des fois les questions comme ça bêtes. Mais pourquoi? Mais le Seigneur aurait pu faire en sorte qu'il y ait simplement homme. Dans le chapitre 1er, il nous a dit qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme. Là, en réalité, c'est le texte, il créa mâle et femelle. C'est ce que l'Écriture nous dit. Dieu aurait pu créer que mâle, simplement. Et puis faire en sorte que le mâle se reproduise. Il paraît que ça existe chez certains animaux, j'ai oublié un petit peu le nom. Vous savez, quand on entend, moi je ne l'ai pas dit, mais il y en a qui le disent à leurs petits-enfants. Mais comment ils viennent les bébés? Ah ben les petits garçons ils viennent dans les choux. Et les petites filles viennent dans les fleurs. Vous avez déjà entendu ça, cette expression-là? Alors, je ne veux pas dire que le Seigneur aurait pu faire en sorte que tout le monde naisse dans les choux. Et il aurait pu faire en sorte que ça soit différent, mais qu'il n'y ait que des mâles. Dieu a voulu qu'il y ait mâle et femelle. Homme et femme. Et quand Paul va donner ce verset dans Éphésiens, il va rappeler le Dieu créateur qui a voulu qu'il en soit ainsi. Et sans doute a-t-il entendu parler aussi de Matthieu chapitre 19 et verset 5. Vous savez, qui parle dans Matthieu chapitre 19, c'est Christ. C'est d'ailleurs un texte qui a été noté il y a quelques semaines, je crois, de cela. Vous savez, quand les pharisiens sont venus l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Enfin, si vous vous souvenez que ça avait été partagé. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a répondu à ces hommes? Il a dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Et là aussi, c'est mâle et femelle. C'est exactement les mêmes termes, la même origine du mot homme et du mot femme. et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire que pour Christ, il n'y avait pas d'ambiguïté, il n'y avait pas de doute. Genèse, chapitre 2, verset 24, le Dieu créateur a voulu qu'il en soit ainsi. Et il le rappelle ici, et Paul le rappellera donc un peu plus tard. Alors, Paul va continuer par un petit texte. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le mystère est grand. Des fois, je me dis, le mystère, c'est mystérieux. Alors, ce n'est pas un pléonasme que je fais, mais les mystères, c'est bien souvent mystérieux. On ne saisit pas, on ne comprend pas toujours. L'apôtre Paul dira que c'est par révélation, dans, je crois que c'est Éphésiens chapitre 3, verset 3, je vais vous le lire, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Ce mystère, c'est quoi ? Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Il y a plusieurs mystères dans l'Écriture. Le mot mystère employé. On parle du mystère de l'iniquité aussi. On parle du mystère de Christ ou mystère de la parole. Dans Colossiens au chapitre 2 et au verset 3, à partir du verset 1 et 2, quoi. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, c'est Paul qui parle. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et à nous, frères et sœurs, qui avons accepté le Seigneur, qui connaissons le Seigneur, là, quand le Seigneur est venu en nous, il s'est révélé en nous. Mais plus que cela encore, il nous a donné son esprit. Et aujourd'hui, notre corps physique, il est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit habite réellement en nous. On le sent pas toujours, on le voit pas toujours, on le ressent pas. Et pourtant, c'est une réalité. Et c'est parce que le Seigneur habite en nous que nous devons honorer le nom de Dieu. Et dans le rapport entre un époux et une épouse, nous devons honorer le nom de Dieu. Alors, l'Écriture nous dit effectivement que il y a un rapport étroit, en tout cas, le mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous avez déjà vu, bien sûr, à la télévision, les illusionnistes, n'est-ce pas ? Vous savez, rien dans les mains, ne vous inquiétez pas, je n'arrive pas à faire comme eux. Alors, ils prennent un foulard, comme ça, une colombe qui apparaît, n'est-ce pas ? Puis il recommence, une deuxième colombe, comme ça il y a le couple. Hein ? Et alors, les enfants qui sont là devant la télé, alors ils ont des yeux ouverts, ils sont émerveillés. Mais pas toujours les enfants, les adultes aussi. Moi je n'ai toujours pas compris comment ils font. Je sais qu'il y a un truc, on m'a toujours dit il y a un truc, c'est de l'illusion, mais je ne connais pas comment on fait. Hein, ce qui se change rapidement, vous savez, en une fraction de seconde, ainsi de suite. Je ne sais pas. Mais c'est de l'illusion. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, vous connaissez 1 Corinthiens, chapitre 13, c'est le passage qui nous parle de la charité. Paul dira, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et un peu plus loin, au verset 8, la charité ne paye jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Le texte dit même, nous prophétisons imparfaitement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Paul continue. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Alors, parfois, on entend, quand on sera au ciel, on va demander au Seigneur qu'il nous explique ceci ou qu'il nous explique cela. Ce n'est pas du tout ce que l'Écriture dit. L'Écriture nous dit que quand on sera avec le Seigneur, nous comprendrons. Il n'aura même pas besoin de nous expliquer. Notre esprit comprendra les mystères de l'Évangile. Alors aujourd'hui, nous prophétisons, nous parlons de la parole de Dieu, nous essayons d'expliquer, nous essayons de comprendre ce que l'apôtre Paul a voulu dire. Il dit, le mystère est grand. Même Paul le reconnaît, et on voit en lisant ce passage qu'il l'acceptait. Et pourtant, il dit à d'autres endroits, je n'ai pas le temps de le lire, mais à d'autres endroits où le Seigneur lui a donné en quelque sorte une intelligence particulière pour lui, pour Paul, en tant qu'apôtre, pour connaître certains mystères de l'Évangile. Et malgré cela, nous voyons imparfaitement. Nous prophétisons imparfaitement. C'est ce que l'apôtre dit. Je me souviens quand on faisait les études, il y a quelques années, on est tombé sur ce passage, d'Éphésiens, et de ce que l'apôtre Paul a voulu expliquer. Et le professeur nous disait, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on disait ce qu'on en pensait, ce qu'on comprenait, en fin de compte. Et le prof, je crois qu'on était deux, si je me souviens bien. Et le professeur dit, intéressant, va un peu plus loin, explique. Et creuse un petit peu ton esprit pour expliquer. Alors, c'est des efforts. On essayait de comprendre un peu mieux, on revenait à Genèse, on revenait à d'autres passages. On disait, oui, c'est intéressant. Mais va un peu plus loin, explique un peu plus en détail. On faisait des efforts, mais au bout d'un moment, il a bien fallu rendre les armes. Je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai tout dit. On avait l'impression d'avoir tout dit, tout en ressentant le fait qu'on n'avait pas tout dit, qu'il manquait quelque chose. Il y a quelque chose qu'on ne saisissait pas totalement, complètement. Et moi, je me dis qu'à la lumière de ces textes, un jour, nous allons comprendre réellement, totalement, ce qu'aujourd'hui, il nous est parfois difficile, je ne veux pas dire de comprendre, mais de saisir la pensée vraiment de Dieu. Il y a un rapport étroit, comme j'ai dit au début, entre Christ et l'Église. Une Église sans Christ, pas de valeur. Et je dirais, si vous me pardonnez si je dis ça, mais Christ sans l'Église, il y a quelque chose qui ne va pas. L'Église et Christ sont étroitement liés, parce que c'est Christ qui bâtit son Église. C'est Christ qui l'a construit, qui veut la rendre sans tâche, Magnifique. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Bien, il faut retenir que notre relation avec notre épouse, les relations entre époux et épouse, entre, je ne vais pas dire simplement époux et épouse qui sont chrétiens, on peut avoir parfois des conjoints une femme qui n'appartient pas au Seigneur. Mais le comportement, l'attitude que je dois avoir, elle est résumée dans ce passage. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à votre mari, comme on l'a lu dans le texte. Parce que c'est à cela que le Seigneur a voulu pour son Église. C'est cela que le Seigneur a voulu pour son Église. Aujourd'hui, on aurait du mal à comprendre, n'est-ce pas, que l'Église du Seigneur ne soit pas soumise au Seigneur. Je fais ce que je veux. Ou alors, je suis soumis simplement, par exemple, le dimanche matin, comme on dit des fois, et puis je ne suis pas soumis le reste de la semaine, loin de là. On ne pourrait pas comprendre que le Seigneur nous aime qu'en partie, que de temps en temps. Il nous aime pour nous racheter. Et puis, quand quelque temps après, je vais chuter, je vais me mettre en colère, je vais désobéir, le Seigneur va dire, oh là là, attends, je vais retirer le Saint-Esprit que je t'ai donné. Tu vas passer un petit moment en purgatoire ou en attente, et puis dans quelques mois, je vais revenir. C'est pas biblique, là. C'est pas biblique, ça. Malgré notre indignité, le Seigneur nous aime. Malgré nos erreurs, malgré notre péché, le Seigneur continue à nous aimer. Il a fait de nous ses enfants. Il nous a assuré qu'il a fait de nous ses enfants. Il ne revient pas en arrière. Pourquoi ? Parce que le don de Christ est un don parfait. La croix est une croix parfaite. Comme je le dis souvent, mais j'aime le répéter, la mort de Christ a été totale et parfaite. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel, sur la terre, par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a pas d'autre sacrifice que le sacrifice de Christ. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices d'animaux. Il fallait le renouveler chaque année. Mais là, le don de Dieu, le sacrifice de Jésus, c'est une fois pour toutes. Et on n'en revient pas sur cela. Ça, c'est le message de l'Évangile. Et c'est le message que nous ne devons pas oublier dans nos rapports les uns avec les autres. Entre mari et femme, nous ne devons pas oublier ça. Que notre conjoint soit un conjoint chrétien ou pas, nous ne devons pas l'oublier. Il y a beaucoup d'épouses qui ont des conjoints qui ne sont pas chrétiens, des épouses chrétiennes. Ils ont des conjoints qui ne sont pas chrétiens. Mais l'inverse aussi existe. Moins, c'est vrai, j'ai connu deux pasteurs, dont les épouses n'étaient pas chrétiennes. Alors, ce n'était pas facile pour eux d'être pasteurs. Ce n'était pas facile d'avoir un ministère pastoral avec une épouse qui n'était pas chrétienne. Des épouses qui n'ont jamais voulu accepter Christ. Donc ça arrive aussi. Moins, c'est vrai, mais ça arrive. Et pourtant, dans l'un comme l'autre, nous devons, bon, c'est pas mon cas, mais vous devez être un exemple. Et il y a un autre passage qui dit, enfin, on l'a lu, je crois, d'ailleurs, dans Pierre, la personne n'est pas chrétienne, parfois, le fait de se taire à la maison et d'avoir un comportement de soumission, parce que l'Église doit être soumise à Christ, même exemple, nous rendons un témoignage fort et puissant. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Et par rapport à la prophétie, je dirais, imparfaite que nous apportons, eh bien, que le Seigneur continue à nous transformer, continue à nous apprendre, et qu'il nous ouvre l'esprit, afin que nous soyons, oui, émerveillés par sa parole, et que nous soyons attentifs aussi à sa parole. Prions quelques instants. Seigneur, c'est vrai que ta parole est la vérité. C'est par elle que tu nous enseignes, c'est par elle que tu nous montres, Seigneur, ce que tu attends de nous. Et Seigneur, si parfois il y a dans notre vie des mystères, des choses que nous n'arrivons pas à expliquer, que nous ressentons, mais que nous ne pouvons même pas expliquer par des mots, je prie, Seigneur, de nous aider à être sensible. À être sensible et à reconnaître, Seigneur, que malgré tout, tu es là, tu nous entoures, tu nous protèges, tu nous aides. Seigneur, si ce matin ou à un autre moment, tu nous montres, Seigneur, une attitude à avoir, un comportement à avoir, que, Seigneur, nous puissions saisir ce comportement, cette attitude. Que nous puissions, Seigneur, refléter l'amour de Christ dans nos vies. Que nous puissions reconnaître que tu es le Dieu créateur qui a créé l'homme, la femme, que les deux deviendront une seule chair. Tu l'as voulu ainsi, Seigneur, parce que dès la Genèse, dès la création, Seigneur, il y avait Christ et son Église. Tu as vu, Seigneur, tu as connu toutes choses, parce que tu savais que Christ était le point central, que la croix était le point central de toute l'humanité. Et tu as voulu, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre notre cœur, et que nous soyons, Seigneur, oui, attentifs et émerveillés, Seigneur, par ta parole. Si nous avons besoin d'être convaincus, Seigneur, fais-le. Fais-le, Seigneur, et que nous puissions vraiment honorer ton nom en toutes circonstances, favorable ou non. Mais Seigneur, que nous ayons ce bon témoignage auprès de nos épouses, de nos époux, auprès de notre famille, que nous puissions vraiment honorer ton nom en toutes circonstances.